Actu SF, les podcasts.
Bonjour tout le monde. Pendant que le jeune bénévole des Imaginales qui s'occupe de ce Magic Mirror idolize, j'espère que vous retenez les noms pour l'année prochaine parce qu'ils vont changer. Non, je plaisante. pendant qu'il est parti chercher les livres des autrices et auteurs présents, non, l'auteur, pense qu'il n'a pas besoin de livres. Tous ces livres sont adaptables à cette conversation. Ou il ne se souvient pas des titres. pendant qu'il est parti chercher les livres que vous pourrez retrouver après la conférence, comme c'est le cas à chaque fois, pour aller voir les autrices et les auteurs en dédicace, une fois qu'ils vous ont ébloui par leur intelligence lors des conférences. Enfin, on va être moins éblouissant à cette heure de la journée, vu la chaleur qu'il fait. Mais on va essayer de se tenir, ou de se dire peut-être qu'on se projette pendant une heure dans une réalité virtuelle où il ne fait pas chaud. Jeanne n'utilise pas son pouvoir d'imaginaire pour y croire. Alors voilà, le sujet de la conversation, de la conférence, de la table ronde, c'est réalité virtuelle, société réelle. J'essaye de pas écouter Lionel. Alors, est-ce qu'on peut pour chacun d'entre vous dire que qu'il est essentiel d'écrire sur le réel, même si c'est d'une façon en imaginant des univers virtuels? Est-ce que ça vous semble inévitable de parler de ce qui se passe socialement, économiquement, peu importe le sujet, mais est-ce que vous sentez que malgré tout, écrire dans l'imaginaire, c'est quand même écrire sur le réel ? Agnès ?
Pour moi, oui, clairement, c'est même vraiment c'est ce qui me motive à l'origine. C'est vraiment toujours pour parler d'un fait de notre société ou de plusieurs faits de notre société que j'utilise le pouvoir de l'imaginaire et du virtuel pour vraiment aller jusqu'au bout d'une idée, un truc qui me semble potentiellement dangereux ou potentiellement marrant, ou voilà, en me disant, et si avec le virtuel on pouvait aller vraiment plus loin, et du coup qu'est-ce que ça donnerait. Donc par exemple dans IRL, qui est donc mon premier roman sur le virtuel, mon idée c'est, j'avais envie de parler de l'observation de masse, des libertés et plutôt des non-libertés qu'on sur les données personnelles qu'on a sur Internet, etc. Et j'avais envie de parler de ça et en même temps en parler en faisant quelque chose de réaliste. Ça avait déjà été fait. Il y avait le film Snowden qui est sorti quelque temps après, mais le scandale Snowden était déjà sorti. Et donc j'avais envie de faire quelque chose qui allait s'adresser à d'autres personnes et donc à un public qui est très très connecté mais qui ne s'informe pas forcément sur ce sujet-là, donc les jeunes. Donc j'ai utilisé le côté drôle, le côté attirant du jeu vidéo, des téléréalités, etc. pour parler justement de notre société, pour tirer un petit peu les sonnettes d'alarme. Attention, Internet, les jeux vidéo, c'est génial, continuez à les utiliser, mais ça peut se retourner contre vous, donc faites un petit peu attention à ce que vous faites quand vous les utilisez. Et pour Erreur 404, j'ai repris aussi le jeu vidéo pour parler de la réalité, et là, qui est une problématique beaucoup plus féministe. Voilà, j'en dis pas plus, parce que c'est un peu compliqué après, voilà, de pas spoiler.
Alors, d'un point de vue carrément général, j'estime qu'il faut totalement suivre Robert Heinlein sur sa phrase clé qui est « La science-fiction, c'est la pédagogie du réel ». Et de ce fait, tout ce que je fais, que ce soit dans l'imaginaire, ça colle avec ça. Je parle du réel, mais dans mes histoires, la plupart du temps, j'ai tendance à les vivre comme d'autres réalités, des réalités virtuelles que je crée dans le papier. Par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux réalités virtuelles elles-mêmes, telles que... ce qui m'a toujours un peu agacée, j'avoue, c'est le catastrophisme général sur le sujet. On n'arrive pas à envisager que ça puisse être bien aussi. mon premier livre sur les réalités virtuelles, c'est L'envol de dragon, qui raconte l'histoire d'un petit garçon mourant qui trouve une forme de bonheur et de transcendance dans une réalité virtuelle juste avant la fin. Et son père l'aide à le faire. Je crois que de tout ce que j'ai écrit, ce petit livre que j'ai écrit pour les gosses de 8 ans, c'est un de ceux que j'aime le plus. J'ai toujours été surprise qu'on vienne me voir en me disant à ce moment-là quand même, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans la vraie vie? Il n'a que quelques mois à vivre. Mais enfin, vous m'avez lu, cet enfant est mourant. Il souffre abominablement. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'obliger à faire face au réel de sa maladie? Alors, la réalité virtuelle, ça peut être ça aussi. Ça peut être, comment dire, ça peut être un soin. Ça peut être une aide.
Améliorer le réel.
Améliorer le réel, améliorer le bien-être, améliorer la compréhension. D'un autre côté, j'ai pris Pixel Noir, qui est une autre histoire, un peu plus sombre, où effectivement la réalité virtuelle se casse la gueule. Il se trouve qu'elle ne se casse pas la gueule parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle a été prise en main par des incapables. Donc, le discours que j'ai assez souvent, c'est « Ah, c'est très bien, vous avez démontré les dangers des réalités virtuelles. » Mais pas du tout, je vous ai dit que si on lâchait des mômes dans la nature sans leur laisser la moindre règle, il y avait tendance, comme dans le roman de Golding, qui est le roman auquel je dédie Pixel Noir, puisqu'il est carrément dans l'histoire, ça tourne à la sauvagerie. La réalité virtuelle, elle n'est rien d'autre que notre propre réalité. Hein, et nous n'y trouverons que ce que nous y apporterons. Donc c'est ni mal ni bien, c'est un marteau, on va peut-être planter des clous avec ou fracasser des crânes, comme d'habitude, avec tout ce qu'on fait.
La réalité virtuelle est une auberge espagnole, c'est ça qu'on dit.
Exactement.
Camille, vous, c'est pas sur la réalité virtuelle en soi, hein, c'est bien un univers virtuel.
Non, voilà, c'est un univers virtuel. En fait, mon roman La Maison des Reflets raconte l'histoire d'une maison dans un futur assez proche qui est en fait une maison où on accueille des avatars virtuels hyper réalistes de personnes qui sont décédées. Et ça permet aux gens qui ont perdu un proche de pouvoir grappiller un peu de temps avec eux pour pouvoir faire leur deuil correctement. Et du coup, évidemment, ces avatars qu'on appelle reflets dans le bouquin sont virtuels. Mais là, je rejoins tout à fait du coup Jeanne et sa vision anti-négativisme sur les univers virtuels, etc. Parce qu'en fait, dans mon livre, et c'est un des points clés, c'est que l'usage qui est fait de la technologie dedans, c'est la technologie est un outil en fait, et il est pas bon ou il est pas mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc cette maison des reflets, ça peut aider certaines personnes, ça peut les aider à passer un deuil de manière plus fluide, plus facile, et par contre d'autres vont complètement le détourner et vont ne jamais lâcher le reflet de leur personne disparue, et du coup c'est contraire aux maisons de la aux règles de la maison, ils vont rester comme ça avec ce double virtuel d'un mort en oubliant complètement justement qu'il n'est qu'un double virtuel, qu'il n'est qu'une illusion, et se laisser un petit peu absorber là-dedans. Mais c'est vraiment une question d'usage qu'on fait de ces technologies.
Je n'ai pas lu ton livre, Camille, mais ça me rappelle un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, un film merveilleux où effectivement on crée des doubles virtuels des personnes disparues pour aider au deuil, pareil. Je pense que vous étiez sur le même rail parce que...
Les bonnes idées sont dans l'air.
C'est un film très récent aussi. Et là où c'est absolument sublime, c'est qu'à la fin du film, il est clair que l'humanité a disparu et il ne reste plus que les intelligences artificielles qu'on avait chargées de prendre en charge la personnalité des morts qui discutent et qui sont en deuil de l'humanité. C'est magnifique.
Christopher, vous, on ne peut pas dire que vous ne parlez pas de la réalité. Mais est-ce que vous choisissez spécifiquement d'en parler d'une façon imaginaire, d'une façon qui transcende un peu notre propre réalité?
My real problem is with reality, as a sort of starting line. And reality can't be scientifically proved. For instance, if I offer you the colour green, we all know what colour green is. You can scientifically describe how it's made and how it's lit and what things are green and so forth. But do you and I see the same thing when we look at green? It can't be scientifically tested. So as far as I'm concerned, my green is subjective, and therefore everybody else's is subjective. And extending beyond that, my perception of the world is subjective. I think there's a consensus, a working consensus we have, that certain things are practical. But again and again, when I watch TV or listen to the news, I realise that there are millions of people in the world who don't share my idea of reality. You know, that's
a shame.
Yeah, well, I'm talking people like, fundamental religious people who are, they have a view of the world which they perceive to be real, but it's certainly not the one I live in. And
Chris?
Oh, he's all right.
I am.
You should wait. His version is better than mine.
Alors, attendez la version de Lionel, elle est meilleure que celle de Chris.
En fait, mon vrai problème concerne la réalité en elle-même. Et en fait, c'est mon point de départ dans l'écriture, puisque la réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement. Parlons de la couleur verte, par exemple. On peut décrire d'où elle vient, comment elle est générée, on peut désigner des choses qui sont vertes, mais on peut se poser la question en se disant, est-ce qu'on voit la même chose, vous et moi, quand on parle du vert? C'est quelque chose qu'on peut pas scientifiquement tester. Mon vert est subjectif. Donc partant de là, on pousse l'idée et toute perception du monde, ma perception du monde, est subjective. Et alors oui, on établit un consensus fonctionnel parce que c'est plus pratique pour s'entendre sur la réalité, mais quand je regarde la télé ou que j'écoute les actualités à la radio, je constate qu'il y a des millions de personnes qui ne partagent pas mon idée de la réalité. Et je parle par exemple notamment des fondamentalistes religieux, ils sont persuadés que leur vision du monde est réelle, mais c'est clairement pas la mienne.
Second part.
Well, that's the good bit. I'm a writer. I write stories. Now, stories are immediate corruptions of reality, and I'm going to show you why. In your life, everybody's life, something happens to you, an instant. You see something, you buy something, you go somewhere, and you decide to tell a friend what it is you did. And the moment you start telling, you have to censor it. You can't say why you were there. Perhaps you were with somebody you shouldn't have been. Or perhaps it was dark and you're trying to imagine what it would have been like in the day. So you're already rewriting it. And then when you're telling it, you try to make it interesting. You put surprises into the telling. These aren't there in reality. Reality is really dull. And at the end, you seek a reaction. When you tell somebody a story, you want a reaction. And so you come to an ending, and you make a joke, or you'd be surprised, or sad, and the listener will react correspondingly. However, in reality, there was no ending. There is no ending to reality. It goes on. So that interests me, because the moment we start to write fiction, we all know it's fiction, but what I'm trying to say is it's a degree of fiction beyond the what most of us agree is the fiction. In other words, there is a kind of deceit going on in fiction, which is contrived, professional, and intended, and both the writer and the reader consent to it.
Je suis auteur, j'écris des histoires, et en fait, les histoires sont immédiatement une corruption du réel. Dans la vie, il se passe des choses, par exemple, vous avez vu quelque chose, vous avez acheté un truc, vous êtes allé quelque part, et à ce moment-là, ensuite, vous allez raconter à un ami ce qui s'est passé. Et dès cet instant, je veux dire ça pour montrer que les histoires sont une corruption du réel, c'est que dès ce moment-là, vous allez censurer ce qui s'est passé. Il y a plein de trucs que vous n'allez pas pouvoir raconter. Par exemple, vous n'allez pas raconter pourquoi vous étiez là, ou alors peut-être vous étiez avec quelqu'un avec qui vous ne devriez pas être. Il faisait peut-être sombre et votre camarade imagine ça la journée. Enfin, donc dès qu'on commence à raconter, on réécrit. Et quand on raconte, on essaie de rendre ça intéressant. Donc on va peut-être créer ou narrer des surprises qui n'avaient peut-être pas lieu dans le monde réel. La réalité, elle est plutôt barbante en général. Et on cherche à obtenir une réaction. Et on arrive à la fin, et donc il y a une forme de chute. Il y a une surprise, il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose de triste ou alors une blague. Et on espère une réaction de l'auditoire, et l'auditoire va probablement réagir, mais dans la réalité, il n'y a pas de fin. La réalité continue simplement. Et c'est la même chose pour dans la fiction. La fiction, on sait tous, quand on en écrit et quand on en lit, on sait tous que ça en est, mais il y a un degré de réel et il y a un degré d'irréel qui va plus loin que ça. Et ce degré d'irréel, en fait, c'est le pacte, c'est le consentement passé entre le lecteur et l'auteur, et c'est la matière des histoires.
The completion of that is that if you tell that story enough times, you start to forget what really happened. And although you know that the reality was one thing and your story is another, the longer it goes on, the more you're likely to believe the thing you've made up rather than the reality you had.
Et en fait, pour conclure là-dessus, c'est que l'idée, c'est que si vous racontez cette même histoire suffisamment de fois, vous allez finir par oublier ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé une chose d'un côté, et puis il y a l'histoire que vous racontez de l'autre. Et en fait, à force de raconter l'histoire, vous allez finir par vous mettre par croire et à l'histoire en elle-même et oublier le réel.
Alors, je trouve assez intéressant que de façon insidieuse et comme ça, dans le flot de ce qu'il nous a dit, Christopher, vous êtes tous les quatre qualifiés de corrupteurs et corruptrices de réalité. Est-ce que ça vous va? Est-ce que alors Jeanne est d'accord, elle se sent tout à fait corruptrice.
Ah, j'adore corrupter à fond. Je me sens corruptrice, mais surtout de la jeunesse, en fait.
Okay.
Je finirai par boire la ciguë, non, aucun problème. Mais clairement, c'est à ça qu'on sert, à montrer par la métaphore, parce que, comme le dit Christopher, c'est évidemment, on transforme, on réécrit, on se raconte même la façon dont on a écrit les choses. Là, je vois comment, d'année en année, je me mets à parler de mes livres. Il y a une partie qui n'est plus du tout la réalité que j'ai vécue au moment de l'existence. C'est plutôt la somme de tous les moments où j'ai parlé de ce livre et qui se confondent au moment T. Là, typiquement, pour L'Envol du Dragon, je vous ai fait une synthèse de 5 ans de parler de L'Envol du Dragon. Mais ce n'est plus l'auteur de L'Envol du Dragon qui parle. C'est celle qui en a parlé pendant 5 ans. Ce n'est pas la même chose. Et dans ce livre, quand même, et dans d'autres, à 80%, je pense, il n'y a jamais un mot de gratuit pour que la réalité telle qu'on croit la percevoir soit telle qu'on croit la percevoir, en fait. C'est ça. Comment dire ça? Ce qui me paraît important pour un écrivain, allez, j'ai cité Heinlein, maintenant je vais citer Yael, c'est que notre rôle, c'est de dire le monde afin que nul ne puisse s'en croire innocent. Voilà.
Est-ce que c'est un côté nul ne peut ignorer le monde comme nul ne peut ignorer la loi?
Mais quelque part, oui. Hein, parce que là, le monde, c'est quoi? C'est les réfugiés dont on parle là. Hein, c'est la non-présence d'écrivains non-blancs à cette table ronde. C'est le racisme, c'est le sexisme, c'est les abominables fondamentalistes religieux dont je ne partage pas plus le monde que Christopher. Et cette réalité-là, moi, j'ai envie de la montrer et j'ai envie absolument de la corrompre, sans aucun problème.
Camille ou Agnès, sur ce même sujet de corruptrice ou pas?
Bah oui, à fond, forcément. De toute façon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on utilise la fiction en général et la réalité virtuelle, parce que c'est quand même un outil formidable pour ça, pour parler de quelque chose qu'on met forcément en avant. Donc on veut mettre en avant un certain aspect de ce sujet-là, justement le côté pas forcément négatif de l'univers geek, etc. Et d'ailleurs, ça a vraiment été pour moi le sujet d'Erreur 404, parce que j'avais déjà écrit IRL sur les réalités virtuelles, le jeu vidéo, les réseaux sociaux, tous ces thèmes-là, je les avais déjà abordés et j'avais envie de les aborder encore, mais sous un autre point de vue. D'ailleurs, c'est à cause de Christopher Priest, de la conférence qu'on a eue ensemble il y a 2 ans à peu près sur le même sujet, je ne savais plus exactement l'intitulé, et où, en entendant ce que je disais d'IRL, il expliquait que pour lui, il y avait plusieurs phases dans les, dans le traitement des gros thèmes de science-fiction, que par exemple les intelligences artificielles, au début elles avaient fait rêver, puis elles avaient fait peur, et le dernier stade c'était de faire rire, ça devenait drôle. Et il s'est dit, dans IRL, il pense que les intelligences artificielles, ça devient drôle. Et je me suis dit, c'est vrai, mais je suis encore un petit peu dans l'avertissement, quand même. Et du coup, j'ai eu envie de plonger vraiment, de basculer dans l'étape suivante et de faire vraiment le côté fun. Donc je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus amusant, beaucoup plus entraînant, avec évidemment des problèmes qui sont créés de cette façon-là, parce qu'il faut bien que faire un peu souffrir nos personnages. Mais donc, j'ai vraiment réutilisé les mêmes thèmes, mais sous un autre point de vue. Donc, effectivement, corrompre la réalité, oui, parce que dans les deux cas, je parle de choses qui existent, mais j'en parle pas du tout avec le même point de vue, ni de la même façon. Voilà.
Avant de donner la parole à Camille, Jeanne a une réaction immédiate.
Alors, ça me fait penser au film Her. Tu l'as vu, celui-là ? De John Dee. La fin est absolument géniale.
Pas de spoiler.
Alors, je vous le dis, je vais vous le spoiler, mais gravement et définitivement. Donc, si vous ne voulez pas savoir, vous pouvez faire... Donc, c'est un type qui a une relation très profonde avec son operating system, qui devient de plus en plus autonome, de plus en plus intelligent, etc. Et à la fin, elle est tellement intelligente, la nana, puisque c'est une IA,
qu'elle le quitte
pour un autre IA, bien plus fun. Là, tu m'as spoilé mon spoiler. Comment t'es ?
C'est même plus que ça, elle le quitte pas vraiment. C'est qu'elle, comme c'est une intelligence artificielle, elle a en fait plein d'histoires en même temps. Mais
elle le jette, elle, carrément.
C'est pas c'est assez pour elle, voilà.
Non, mais elle jette l'humanité carrément, ils partent ensemble.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
Bon voilà, méfiez-vous, ne confiez pas votre vie à Siri, elle va vous quitter. quand votre iPhone tombera en panne.
Merci pour ces spoilers, j'avais prévu de le voir, mais tant pis. Bon, au moins c'est du temps économisé, maintenant je sais comment ça se termine. Non, c'est intéressant cette question de mystification aussi de la réalité sur le travail de l'écrivain. Et du coup, c'est utile ces conférences parce qu'on réfléchit en même temps, on découvre des choses, et tu as totalement raison dans la manière dont on parle de nos livres, qui est complètement, qui change par rapport à la manière dont on l'a écrit. Et moi, je m'aperçois qu'en fait, je fais un truc très, très, très vil, mais quand quelqu'un croit avoir vu quelque chose d'intelligent dans mon bouquin et pense que je l'ai mis volontairement, du coup, je dis oui, oui, bien sûr, et après, je le récupère et je le réutilise quand j'en parle pour faire genre que j'ai fait exprès dès le début, et c'est pas du tout ça. Mais du coup, ça enrichit un petit peu le discours. Et ensuite, pour
oui,
la partie...
Quand vous fréquentez ces gens, vous savez que le sujet de cette année est complètement sur eux. Ce sont des créatures.
Voilà. Absolument, on enregistre pas tout, on n'oublie rien et on réutilise. Et donc, dans mon roman La Maison des Reflets, c'est aussi intéressant parce que cette question, en fait, de la perception de la réalité, elle est vraiment au cœur, puisque ces reflets, ces avatars virtuels de personnes décédées, ils ne sont pas créés à partir de la personne quand elle est vivante. Ils sont créés après par leurs proches, donc qui vont parler avec le concepteur des reflets, qui vont donner en fait leurs souvenirs, la vision qu'ils avaient d'eux, par des photos, par des vidéos. Et en fait, on recrée une image de ce qu'on pensait être la personne, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, deux personnes pourraient créer en fait un reflet complètement différent de l'une et de l'autre.
Est-ce qu'en partant sur cette idée-là, vous avez pensé au biais qu'on a tous dans la façon dont on regarde les autres, dans la façon dont leur apparence, dont ce qu'on croit savoir d'eux nous fait croire qu'on les connaît ou qu'on les comprend ?
Mais c'était exactement ça, c'était le fait d'écrire...
C'est mon idée,
oui,
Camille, c'est mon idée.
Voilà. Ah mince, j'aurais pas dû vous dévoiler ce tour.
Non, mais on le connaît tous.
Voilà. Et non, mais c'était vraiment ça. C'était le fait de, en fait, la perception qu'on a quelqu'un, ce qui est qu'une perception, c'est une illusion, c'est une image. Et je voulais vraiment mettre au cœur du roman cette idée de perception. Les gens se créent une image de la personne qu'ils pensent être, qui est pas forcément la vraie. Et le héros va se retrouver un peu piégé là-dedans, puisqu'au final, il pense connaître des gens. Non, il en connaît que l'image que d'autres personnes se faisaient d'eux. Il y a une espèce de mise en abîme derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle des reflets, parce que c'est juste une image projetée sur une autre surface.
Et inversé en
complètement
plus.
Inversé.
D'accord. Pour revenir maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur vos secrets et sur la façon dont vous romancez votre vie de romancier. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers de la société réelle que vous avez eu envie d'éliminer dans vos univers virtuels ou de mettre plus en avant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblaient... J'ai cru comprendre qu'hier, sur une table ronde, Steven Erikson expliquait que lui, quand il créait un univers, il lui semblait pas nécessaire, par exemple, de réintroduire le patriarcat dans un univers imaginé, puisqu'on en avait déjà bien assez à faire ici. Est-ce que vous, dans vos univers, il y a des choses de la réalité que vraiment vous avez souhaité supprimer? Est-ce que c'est possible, si on veut toucher le lecteur et qu'il reconnaisse quand même quelque chose dans ce qu'on écrit, est-ce qu'il y a des choses dont on peut se passer réellement?
Alors moi, dans un de mes romans, j'ai tué Dieu. Hein. Voilà.
Ah, parce qu'il est là.
Enfin, je l'ai fait disparaître de la réalité de milliers de gens. Voilà. Je vous dirai pas lequel parce que je vais quand même pas me spoiler moi-même. Hein. Faut pas déconner non plus.
Je vais m'en aller. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, moi, c'est un roman qui parle pas du tout de réalité virtuelle, mais j'ai quand même un roman où il y a que des femmes, en tout cas à l'origine, et qui savent pas du tout que les hommes existent non plus. Donc, voilà. Je suis partie un petit peu...
Je vais le faire à chaque conférence. Hein.
Ça, non, mais tu peux. du fantasme qu'ont les adolescentes à 12, 13 ans, qui sont encore un peu entre filles, les garçons, c'est mal, et en même temps, il y a une petite attirance... Il y a une petite attirance pour eux, et donc je suis vraiment partie de là. Et donc effectivement, oui, pour le coup, il n'y a plus du tout de patriarcat, etc., puisqu'il y a d'un côté les femmes qui ne savent pas que les hommes existent, d'un côté, on le voit plus tard, mais les hommes qui ne savent pas que les femmes existent, et un truc entre deux qui est un peu compliqué, que je ne dévoile pas, parce que je ne vais quand même pas tout vous spoiler. Mais donc effectivement, pour revenir sur le... c'est ça, c'est terrible. Effectivement, oui, changer complètement la société, oui, mais pas forcément... Quand je parle de la réalité virtuelle, parce que pour moi, dans réalité virtuelle, il y a réalité, justement, et donc je m'en sers plus pour parler de notre société et de montrer comment j'aimerais qu'elle soit transformée. Alors qu'en dystopie, voire fantasy, je peux faire plus table rase et partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et j'ai supprimé les couleurs aussi dans un autre bouquin.
Un roman en noir et blanc, donc.
Presque.
Rien d'aussi radical de mon côté. Non, alors, dans La Maison des Reflets, en fait, c'est dans un univers qui se passe dans un futur, mais très proche du nôtre. Je voulais vraiment pas qu'on ait l'impression d'être dans le futur. Je voulais qu'on puisse se sentir, qu'on puisse se dire ça pourrait arriver demain. Donc, c'était important, justement, de rien enlever. Par contre, c'est vrai que c'est un roman qui parle du deuil et de la mort. Et j'ai très peu parlé dedans de religion. Parce que j'avoue que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Donc tout simplement, je l'ai un peu évadé par solution de facilité. Je l'ai fait glisser sur le côté et je n'ai pas trop parlé de religion.
The only thing I'd remove from VR is chairs. The one time I used VR, I saw a chair and sat on it.
You used VR and you saw a chair and sat on it. Okay. La seule chose que je veux supprimer de la réalité virtuelle, c'est les chaises. Parce qu'un jour, j'ai utilisé de la réalité virtuelle, je me suis assis sur une chaise et c'est tout ce que j'ai fait.
Non, mais ma question, c'était qu'est-ce que vous voudriez supprimer? Qu'est-ce que dans vos réalités à vous, dans vos univers virtuels, dans vos univers à vous créés, qu'est-ce que vous supprimez de notre réalité? Quelles sont les choses que vous avez réellement envie d'enlever? Est-ce que c'est possible de les enlever?
The lesson from reality is you can't do that. You get attempts to engineer change. For instance, the Australians had a parasite which attacked their crops, and they imported toads from Hawaii. And those toads now are dominating the large part of northern Australia, and they're venomous and they breed like mad, and they're really a problem, and that they have no ecological place. So tampering with reality is always a problem, and there's always a reaction, a counter-reaction, and so forth. And I still, as I say, as I began at the beginning, I'm still more problematical about reality than virtual reality.
Alors, ce que nous apprend la réalité très vite, c'est qu'on ne peut pas jouer avec. Et on ne peut pas chercher à provoquer des changements sans provoquer des conséquences. Par exemple, en Australie, il y avait un parasite assez terrible qui dévorait les récoltes. Et du coup, on s'est dit qu'on allait introduire des crapauds venus d'Hawaï pour qu'ils dévorent le parasite. Et ces crapauds, à leur tour, sont devenus un immense problème, notamment dans le nord de l'Australie. Ils sont venimeux, ils se reproduisent comme c'est pas permis, ils n'ont pas de niche écologique appropriée. Donc c'est un vrai problème. Et en fait, on se découvre que quand on commence à vouloir jouer et trafiquer la réalité, on finit toujours par avoir des ennuis. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai beaucoup plus de problèmes avec la réalité qu'avec la réalité virtuelle. En fait, c'est la réalité qui me pose problème.
Mais justement, j'insiste, hein, parce que Christopher, vous ne me répondez pas.
I'll give you the chairs breaking.
Chairs.
No chairs.
Revenge, revenge.
Revenge of the chair.
Oh my.
Yeah, don't tamper with reality.
Ce festival est magique. Méfiez-vous. Tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas vrai.
Méfiez-vous du fauteuil zombie.
Is yours safe? Yeah, I think mine is safe. The comedy sequence is over. What I was going to say was, you can learn for yourself how virtual reality is working and should work. And this is when you read a book. You read the book from beginning to end, you like it, you remember it. Now, what is it you're taking from that book? You're looking at the words the writer put down. But when you finish the book, you can't remember the words. If somebody said to you, what is the 13th word on page 223, seventh line down? You couldn't tell them. Nobody could. So clearly, the words in the book are working in another way. They're not working in a literary way. They're working as a kind of code which stimulates a response in your mind, in your imagination, and you, in effect, rewrite the book. So that is the kind of thing that we do when we're trying to do virtual reality. They're using technology to reproduce the effect of reading. And although it's kind of attractive in a superficial way, it's no different. And personally, I would always say, if you want virtual reality, read books.
Je pense que c'est important d'apprendre pour soi comment la réalité virtuelle fonctionne, comment elle devrait fonctionner. Mais en fait, c'est pas du tout différent des livres. Un livre, vous le prenez, vous le lisez du début à la fin, vous l'appréciez, vous vous en souvenez. Mais en fait, tout ce que vous voyez, c'est des mots sur la page. Personne n'en s'en rappelle des mots du texte verbatim. On peut pas vous dire alors c'était quoi le mot de la 7e ligne à la page 233 au 13e emplacement. Personne n'est capable de faire ça. Donc ça veut dire que les mots fonctionnent d'une manière qui est différente, qui n'est pas du sens propre, qui n'est pas littéraire, qui n'est pas littéral. Les mots stimulent l'imagination, mais en fait, ce qui se passe quand on lit un livre, en fait, on le réécrit dans son esprit avec son imagination. Et je pense que avec la réalité virtuelle, on essaie de faire la même chose. On essaie finalement, en créant des mondes virtuels, de recréer le même effet que la lecture, c'est-à-dire cet effet de créer cette réalité en soi. C'est attirant, mais c'est exactement la même chose au fond. Donc moi, j'ai tendance à dire, si vous voulez de la réalité virtuelle, lisez des livres.
Il ne répond toujours pas à ma question. Comment faire? Y revenir une quatrième fois? Est-ce que je suis dans un monde virtuel? Christopher, in your books, qu'est-ce qu'il y a de la réalité, de notre réalité? De notre réalité sociale, j'entends, que vous avez eu envie d'enlever, ou que vous avez peut-être échoué à enlever, ou que vous auriez envie d'enlever dans le. Je pense à la famine, à la guerre. C'est un peu ma question Miss Monde, quoi. Si vous pouviez refaire le monde comme vous le voulez en l'écrivant, qu'est-ce que vous enlèveriez? Miss Monde. Miss Imaginale, pardon.
I'd start with Trump.
J'ai une réponse.
Have I now answered your question?
That's enough for me. Ça me suffit. Bon, donc, on voit bien qu'il n'a pas encore réussi complètement à l'enlever. Donc. Oui, Jeanne.
J'aimerais répondre à ta question, parce
bien
que
sûr.
J'ai réfléchi à, au truc.
Une question, une conférence.
C'est un truc que j'aimerais enlever de ma réalité personnelle, ma réalité cognitive. C'est quand j'écris, de me faire coincer par mes propres biais de perception. J'ai écrit récemment un bouquin où il y a une femme trans et je me suis fait taper sur les doigts par une lectrice parce que j'ai planté un accord. Pourquoi est-ce que j'ai planté l'accord du participe passé ? Parce que j'ai pas bien réfléchi. Alors, cela étant, cet accord, j'y avais quand même un peu réfléchi. J'avais pris un avis, mais d'une personne qui était en chemin et qui n'était pas elle était légitime à parler pour elle, hein, pas de problème, mais pas forcément pour le domaine de représentation où je voulais atteindre. Et du coup, je pense que je changerai cet accord lorsque le bouquin sera réimprimé. Mais c'est là, c'est quand on se fait coincer parce qu'on ne voudrait pas transmettre et qu'on transmet quand même. Et je me rappelle avoir transmis à une copine un de mes textes afin qu'elle le relise pour bien... Parce que j'étais en train de parler de choses où je ne suis pas du tout légitime, notamment la façon de travailler les coiffures afro. Hein. Et donc je les ai passées à Clémence pour qu'elle me dise si j'avais déconné. Et j'avais déconné. J'avais utilisé des métaphores, des figures de style qui animalisaient les personnes noires. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Or, ça allait totalement à l'inverse de ce que je voulais faire, évidemment. Et Clémence le savait, et c'est pour ça que je l'avais mise à contribution. Mais typiquement, ce genre de choses, j'aimerais me les arracher de la tête avec un pic à glace. Et ils sont là. C'est l'humaine nature.
Nos biais cognitifs. Agnès, vous aussi, donc il y a des choses à arracher.
Bah là, du coup, ça me parle particulièrement, notamment pour... je reviens encore à Erreur 404, parce que dans toute la première moitié du roman, j'ai fait le choix de ne mettre aucune marque de genre pour le personnage. Je ne veux pas qu'on sache si c'est un garçon et une fille, sachant que c'est à la première personne du singulier, c'est de son point de vue. Et donc, j'ai dû, tout le long de l'écriture, faire attention à ne mettre aucun accord... d'un côté comme de l'autre, à donc parfois carrément reformuler les phrases, etc., pour pas que ça apparaisse. Malheureusement, il y en a un qui m'a échappé, qui est dans le roman. Je vous dis pas où, parce qu'il y en a qui le voient pas, donc. Voilà, c'est ça. Vous pourrez le chercher si vous le lisez. Mais effectivement, cet exercice, j'ai voulu le faire notamment pour réfléchir à la question du genre dans notre langue. Je le savais déjà évidemment, mais je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est difficile d'écrire un roman et une histoire non genrée. Et donc effectivement, si j'arrivais aussi parfois à formater le cerveau pour oublier les trucs qu'on a appris et qu'on aimerait bien ne pas savoir, en fait, c'est vrai que ça simplifierait la vie. Ouais.
Et du coup, comme le monde réel manque de possibilités d'expression pour les personnes qui seraient non-binaires et,
complètement, voilà. Ouais.
C'est-à-dire que pour elles, peut-être que notre réalité, c'est une virtualité, un virtuel difficile à vivre, quoi.
Ouais. Et même quand elles... Enfin, on a toujours tendance à dire que justement le virtuel et Internet, c'est quand même la terre promise pour tous les gens qui ne sont pas très adaptés à la société.
Non. Pas très normés. Tu veux...
Oui,
très
non.
Adapté, c'est...
J'allais pas dire... Oui, non. Effectivement. Voilà, c'est un bon exemple. Pas très normé, j'allais dire aux conversations, enfin bref, etc. Et en fait, justement, sur ces questions de genre, à l'écrit, ça passe aussi, voire parfois plus, parce qu'il y a des accords qu'on voit mais qu'on n'entend pas. C'est vraiment généralisé. C'est pas la terre promise là-dessus. Il y a du travail à faire. Et dans toutes les langues. Il y a des langues qui sont beaucoup moins genrées. Par exemple, en turc, il n'y a pas de féminin ou de masculin pour la plupart des mots.
Jeanne ajoute que ça n'aide pas beaucoup les femmes turques.
Non, mais...
Mais, oui, oui. Mais peut-être que les personnes non-binaires, on ne sait pas.
Voilà, Valérie. Par exemple. Donc vraiment, c'est voilà, une réflexion là-dessus.
I just want to say that the if you did that in French, that's really difficult and admirable. English, you can do it much more easily because the adjectives and the verbs don't change. And so if you did that, I think that's really admirable. Which one did you get wrong?
Donc oui, c'est extrêmement difficile à faire en français. Si vous aviez fait ça en anglais, c'est beaucoup plus facile. Les verbes et les adjectifs changent pas. C'est lequel que vous avez planté?
Pardon. Vas-y, si vas-y. Je peux le dire. C'était j'ai glissé un méfiant te, un adjectif.
De ce point de vue-là, il y a un roman, enfin une trilogie extraordinaire de Anne Leckie qui s'appelle La stratégie La vengeance de l'ancillaire, La miséricorde de l'ancillaire et L'épée de l'ancillaire. Les trois romans, ça doit être ça. Anne Leckie l'a écrit totalement au neutre. Le choix du traducteur français, ça a été d'utiliser le féminin comme genre, comme genre neutre, à la place du masculin. Alors, ça donne deux livres, en fait, assez différents, en anglais comme en français. Personnellement, j'ai adoré la version française, parce que être entouré de femmes dans un space soap, eh ben, écoutez, les mecs, désolé, mais ça fait un bien. Fou.
In English, she wrote in the feminine gender.
Also?
It was feminine in English.
Oui, en anglais, le genre entre guillemets neutre est féminin. Quand on parle de quelqu'un de manière générique, en français on dirait il, en anglais on dit she.
Comme les bateaux.
Like boats. Comme les bateaux, les vaisseaux spatiaux.
Prenons-en de la graine, je veux dire. Mettons-nous tous à l'anglais, abandonnons cette langue millénaire qui ne vit. Camille, et le temps passe, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Moi, ce qui me fascine dans vos romans et dans la façon dont vous avez que vous avez d'aborder le virtuel ou le réel, c'est la notion de séparation. Ça va parler, je pense, aussi pas mal à Agnès. Cette idée que parfois on construit des murs entre les choses, des murs entre ce qui est possible et pas possible, des murs entre ce qui est réel et pas réel. Est-ce que vos romans, c'est pas une tentative d'aller vers plus de fluidité, vers la disparition des murs?
C'est une bonne question, mais c'est intéressant de parler de séparation, puisque comme c'est un livre sur la mort, oui, c'est une séparation plutôt brutale et définitive. Donc, est-ce que c'est un roman sur la séparation? Oui, complètement, sur la manière dont on accepte cette séparation, et aussi on accepte de laisser l'autre filer. Et vraiment, là-dedans, la technologie, le virtuel, tout ça, c'est juste un prétexte, en fait, pour parler de quelque chose de très intime. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, en fait, la technologie se glisse absolument partout, dans tous les petits interstices de notre vie au quotidien, et comment elle arrive à vraiment même toucher des choses très intimes, comme notre passage au deuil. Et là, je dévie un peu de ta question, j'en suis désolée. Mais je me suis inspirée vraiment, il y a quelque chose qui m'a frappée quand j'ai voulu commencer à ce bouquin. J'ai lu un article en fait qui disait que Facebook était en train de se transformer en cimetière virtuel et que dans 60 ou 50 ans, il y aurait plus de personnes mortes sur Facebook que de personnes vivantes. Et en fait, ça m'a vraiment frappée de voir justement le changement, le passage d'un profil qui au début est un lieu d'affichage de sa personne publique qui devient ensuite un lieu de recueillement pour tous les autres. Et je trouvais ça vraiment intéressant, cette inversion de cet outil.
Je sais pas, pour avoir récemment vu arriver sur mon fil l'anniversaire annoncé par Facebook d'une personne morte, ouais. C'est violent.
C'est très bizarre, quoi. Et ouais. C'est quelque chose en fait de technologique, un truc automatique qui arrive comme ça, et ça peut créer une vraie claque dans la gueule de ceux qui le regardent, et ça peut être très violent. Donc.
Il y a un endroit sur Facebook où on était réunis avec Roland Sewagner, qui est mort en 2012. Un petit groupe où on parlait et qui s'est un peu arrêté après sa mort. Ce groupe existe toujours parce que je ne l'ai pas détruit, je l'avais créé. Et j'avoue, de temps en temps, je vais relire ce qu'on se disait avec Roland. Et ça met à la fois... Excusez-moi. C'est une espèce de soulagement, parce que j'aimais profondément cet homme, au sens vrai, pas au sens de l'amour physique, puisque c'était pas mon amant, c'était un ami vrai. Et de revoir ses paroles qui étaient toujours à hurler de rire, son humour, ses jugements à l'emporte-pièce, parce qu'on disait du mal. Évidemment, on était ensemble, on parlait des autres et on disait plein de mal. Mais je suis heureuse que ça n'ait pas disparu. Mais par contre, Facebook ne peut pas nous le balancer dans la gueule n'importe comment non plus. Il faut y revenir, quoi. Voilà.
Et au final, en fait, tous ces mots qui sont restés sur des conversations qui étaient virtuelles et normalement éphémères, ben, c'est devenu très, très, très réel pour nous, justement, quand on n'a plus que ça, et c'est quand même important.
Agnès, sur la séparation ?
Oui, bah, en fait, je rebondis un petit peu parce que quand on parle de réalité virtuelle, de jeux vidéo, etc., et pas seulement les réseaux sociaux, certes, on ne se voit pas, les gens ont tendance à dire que ce n'est pas la vraie vie, mais on éprouve des émotions très réelles, comme on vient de le voir de manière assez frappante et émouvante, d'ailleurs. Vraiment, du coup... C'est pour ça que, enfin, je pense qu'on peut même pas parler de séparation parce que c'est pas une fausse vie, c'est notre vie. Certes, on a une vie imaginée, fantasmée, etc. Mais les émotions qu'on éprouve sont réelles. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais en train de jouer qui sont absolument géniaux parce que j'ai rencontré quelqu'un, enfin, la moitié de mes copines, je les ai rencontrées par Internet, mes amis les plus proches, celle qui va être témoin à mon mariage bientôt. Ce sont des...
Félicitations.
Merci. Ce sont des gens réels, et même quand ce ne sont pas des gens réels, que ce sont des programmes, ils nous font éprouver des émotions réelles. Donc pour moi, il ne peut pas y avoir de séparation. C'est pour ça d'ailleurs que je passe mon temps à mélanger les uns et les autres dans mes romans, parce que c'est vraiment quelque chose de... Ça fait partie de notre vie.
Juste un truc très, très con. De toute façon, on a tendance à rendre vivant tout ce qu'on approche, nous les hommes. C'est notre façon de faire. Les humains. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais très fatiguée en me levant et je suis allée me faire un café. Et là, le café coulait, je mets un sucre, je prends ma tasse et j'ai dit merci à la cafetière. J'en avais vraiment envie. Mais, voilà.
Mais il arrivera un moment où il faudra qu'on dise merci à des machines. Et peut-être qu'on devrait en être plus poli et qu'on les traitera avec plus d'humanité que certains ne traitent le serveur, la femme de ménage, la personne qui vient ramasser les poubelles, enfin tout ça.
The best moment in Alphaville is where Eddie Constantine sees the machine and it says insert one franc. So he puts a franc in and it says merci.
C'est aussi le meilleur moment dans Alphaville quand Constantine met une pièce d'un franc dans la machine et qui dit à la machine merci.
Bon, pour qu'on soit bien sûr qu'on n'est pas dans le virtuel, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Est-ce que vous êtes là? Bon, bon, pas de questions alors. Ouais, je crois que vous n'êtes pas là en fait. Vous êtes en train de fondre dans la réalité de ce circus. Bon, et est-ce qu'il y a des univers virtuels dans lesquels vous aimeriez vivre réellement? Ça va être ma dernière question. On se précipite pour y aller y vivre avec vous.
Je sais pas forcément. Je joue à beaucoup de jeux, donc il y a beaucoup d'univers qui me parlent, effectivement. Mais finalement, le jeu qui m'a le plus touchée, c'est Life is Strange, et ça se passe dans notre univers à nous. Alors avec, il y a plusieurs étapes, mais l'héroïne peut avoir un pouvoir, mais c'est pas ce pouvoir-là qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment ses émotions, le rapport qu'elle a avec son ami, qui est très très fort. Et donc finalement, j'aime beaucoup aller dans des univers virtuels, mais ce qui me touche le plus, peut-être, se rapproche de la réalité. Donc je pense que notre monde, même s'il est tout à fait imparfait, il a cette chance qui fait qu'on peut s'en inventer plein à partir de notre monde, donc je vais peut-être y rester un peu quand même.
Alors moi je joue à Pokémon Go, alors c'est l'inverse. Donc, c'est la réalité virtuelle qui vient dans la vraie réalité. Et je cueille mes Pokémon. Voilà. Et je tiens à vous dire que Épinal, c'est pas génial pour les Pokémon. Voilà.
C'est le principe d'erreur 404, en fait. J'ai fait Pokémon Go, mais sans les téléphones.
Camille.
Oui, moi, je choisirais l'Oasis, qui est en fait le système de jeu du livre Player One et film Ready Player One, que vous avez peut-être déjà vu, que j'ai trouvé génial, et parce que c'est diversifié, en fait. C'est tout un tas d'univers. On peut choisir, on peut changer à chaque fois, et comme ça, ça permet de ne pas... Je ne vous donne comme ça pas une réponse limitée.
Ok.
C'est vrai, c'est un bon, bon compromis. Ouais,
puisque je fais partie de cette réalité, moi, je vous dis direct, je veux aller au Wakanda où Shuri oui, est devenue la reine. Non, mais vous n'êtes pas bienvenue, colonizers. Christopher, où est-ce que vous aimeriez vivre?
Well, I sometimes think I am in a virtual reality, which is actually imaginal. It's an extraordinary feeling. Because I'm here, this is my fourth year I'm here, and we're here for 3 or 4 days, and it's completely unlike my real life. But it's surrounded by my friends, my colleagues, and lots of people out there I've never met, really nice to me, and the whole atmosphere is excellent. And the weather's, it doesn't even rain, you know. well, sometimes it rains, you know. And I was saying to somebody this morning that to me, like, Epinal is the reality, and then there's, in between, there's these kind of bad bits. And
Parfois, je pense que je suis dans une réalité virtuelle et cette réalité, c'est les imaginales. C'est un sentiment extraordinaire. C'est ma 4e année ici. On est là pour 3-4 jours et ça n'a strictement rien à voir avec ma vie réelle. Ici, je rencontre plein de collègues, de confrères, de consoeurs, d'auteurs, d'autrices et aussi des tas de gens que j'avais jamais rencontrés avant qui sont juste extrêmement adorables avec moi. L'atmosphère est juste formidable. Rendez-vous compte, il pleut même pas. Et parfois, j'ai parlé à quelqu'un ce matin qui m'a dit, en fait, Épinal, c'est peut-être la réalité, et il y a juste des moments pas très marrants entre chaque imaginal.
Bon, et bien alors profitez-en bien parce que ça s'arrête demain. Et merci à tous et merci à nos auteurs et autrices.